Europe 1, il est midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On l'a appris il y a quelques instants, les tarifs des autoroutes à la hausse à partir du 1er février prochain. Plus 4,75%, c'est une moyenne, le détail avec Margot Faudéré. Les paroles rassurantes du patron d'RTE, si tout le monde fait attention, il n'y aura pas de coupure d'électricité, vous allez l'entendre dans un instant. 4 trains sur 10 seulement en circulation, aujourd'hui et tout le week-end. Vous avez dû vous arranger ce week-end, vous organiser si vous deviez prendre le train Thibaut U à la gare Montparnasse à Paris. Vos témoignages à suivre. On en sait plus sur ce que prévoit le gouvernement pour sa réforme des retraites. On sera avec le secrétaire général de la CPME, les petites et les moyennes entreprises, Jean-Hugues Duménil, avec nous dans Europe Midi. Et on sera avec vous, bien sûr, au 39-21. Vous nous dites si vous êtes prêts ou pas à travailler plus longtemps. Emmanuel Macron en Louisiane aujourd'hui, au troisième jour de sa visite d'État aux États-Unis. Vendredi thématique sur Europe 1. France, États-Unis, je t'aime moi non plus. On sera avec Olivier O'Mahony, correspondant aux États-Unis pour Paris Match, et Jérémy Guez, professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris, et avec vous au 39-21. J-2 avant France-Pologne. On appellera évidemment Jacques Vendroux au Qatar, à Doha, pour les toutes dernières informations concernant les Bleus. La tendance météo, Anissa Haddadi, avec le froid qui s'installe.
Oui, cette sensation de froid, elle est bien présente grâce aux températures qui sont en dessous des moyennes de saison et surtout la bise, ce vent de nord-est qui vient glacer l'atmosphère et qui accentue la sensation de froid. L'après-midi est bien grise, encore pour ce vendredi avant un week-end hivernal.
Anissa Haddadi, merci Anissa, à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Après la flambée des prix du carburant, voilà celle des péages. Nouvelle conséquence de l'inflation, les sociétés d'autoroutes vont augmenter les tarifs de 4,75% en moyenne, Margot Faudéré. Et ce, bonjour Margot.
Bonjour.
À partir du 1er février 2023, 1er février prochain. Hein.
Oui, car selon les sociétés d'autoroutes, les hausses iront de 4,5% à 5,07%. C'est en dessous de l'inflation qui est à un peu plus de 6%. Et cette hausse des tarifs, elle vise à couvrir le coût des investissements nécessaires pour entretenir le réseau. Un coût qui a augmenté avec la hausse des prix des matériaux et de l'énergie. C'est ce que confinent des sociétés autoroutières à Europe 1. En tout cas, les acteurs du secteur et le ministère des Transports ont longtemps discuté pour trouver un compromis et l'augmentation aurait pu être bien plus élevée. Certains évoquaient 8% de hausse. Les discussions ont aussi abouti à des mesures pouvoir d'achat. Par exemple, les trois principaux concessionnaires que sont Vinci, APRR et Sanef accorderont une réduction de 40% sur les péages, des 10 allers-retours par mois sur le même trajet. Une réduction qui ne s'appliquera qu'aux abonnés télépéages et qui vise à aider tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'emprunter l'autoroute pour se déplacer.
Margot Faudéré, merci beaucoup Margot. Inauguration d'une liaison électrique ce matin à Tournai, une interconnexion entre deux pays, entre la France et la Belgique, avec des câbles doublés. On passe de 3 gigawatts à 6 gigawatts grâce à des câbles d'une technologie supérieure pour faire passer plus de courant. Ce sont 3 millions de clients français mieux alimentés. La France va être très fortement importatrice d'électricité pour éviter le blackout ces prochaines semaines, ces prochains mois. Écoutez ce que nous a dit ce matin Xavier Piechazik. Il est président de RTE. Il répondait au micro de Maximilien Carlier.
Les coupures ne sont pas une fatalité, je le redis. Nous allons prévenir les Français 3 jours avant. Les Français, les entreprises et les collectivités locales ont 3 jours pour s'organiser et faire le jour J les bons éco-gestes. Et si tout le monde fait ses bons éco-gestes le jour J, il n'y aura pas de coupure. Nous nous organisons pour les éviter. Les entreprises, les collectivités locales doivent nous aider. Mais nous aussi, nous mettons en service des nouvelles interconnexions le plus vite possible pour importer le plus d'électricité possible.
Voilà. Et puis, on l'apprend à l'instant, une vaste panne d'électricité a eu lieu ce matin dans le sud du département de l'Aube, affectant 115 000 utilisateurs. Elle a été provoquée par un incident technique du réseau de transport d'électricité. La panne a commencé à 10h50. Elle a privé notamment de courant hôpitaux et entreprises. Elle a affecté également la préfecture de l'Aube. C'est ce que précise le service de communication d'Enedis. 115 000 clients restaient impactés à 11h sur le sud de l'Aube. Voilà ce que l'on apprend Ce matin, il ne s'agit pas de coupure programmée d'électricité. C'est bien un incident technique qui se produit donc dans l'Aube, 115 000 foyers sans électricité. Une journée compliquée si vous devez prendre un TGV ou un Intercité. Seuls 4 trains sur 10 en circulation jusqu'à dimanche en raison d'une grève des contrôleurs de la SNCF. Les chefs de bord réclament une hausse des salaires. Ils réclament également plus de recrutement. Thibaut Hue, en direct de la gare Montparnasse à Paris. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Les voyageurs doivent s'organiser, hein.
Oui, tout à fait, hein, parce que pour voyager, c'est un parcours du combattant. J'ai croisé Martin, valise à la main, son train de demain est annulé. Alors, seule solution, partir plus tôt, aujourd'hui. Et pour ça, il a dû poser un jour de congé et surtout payer plus cher son nouveau billet.
Le train, il était à 71, Roissy, La Rochelle, et là, ça m'a coûté 30 euros de plus. Ah bah bien sûr que c'est pénible. Ah bah y a pas le choix, y a pas le choix.
Mais sur certaines lignes, tous les trains sont déjà complets. Alors Carlita a grimpé coûte que coûte dans un train avec sa fille avec le mauvais billet.
On s'est dit on va essayer de monter dedans, voir comment ça se passe, comment on est reçu à l'entrée du train. Donc il y avait effectivement des contrôleurs qui nous ont salués mais qui n'ont pas cherché à savoir si on avait les tickets pour le bon train. C'est vrai que sur le coup on a stressé, hein. Je ne vous cache pas que hier soir c'était compliqué.
Et pour ceux qui sont arrivés à destination sans problème, comme Adèle, ils ne savent pas encore s'ils pourront bien repartir dimanche.
Advienne que pourra. Si je peux pas rentrer à temps, on fera appel à la famille pour les enfants parce qu'il y a école lundi matin. Et puis forcément, ça m'inquiète parce que j'aimerais bien ne pas avoir de galère dimanche pour rentrer. Maintenant, faut vivre, hein, donc on verra.
Voilà, de très nombreuses perturbations, surtout ici, à la gare Montparnasse à Paris, où seulement un train sur deux est en circulation ce week-end.
Merci beaucoup, Thibaut Hue. En direct avec nous dans Europe Midi. Cette information que je voulais vous donner, on se dirige vers un arrêt des vols intérieurs de courte durée. La Commission européenne a validé la mesure française de suppression des vols intérieurs en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Cette mesure, qui est une disposition emblématique de la loi climat, devra être limitée à 3 ans et s'appliquer aussi aux vols de correspondance. La mesure a pour conséquence d'interdire des liaisons entre Paris-Orly essentiellement et Nantes, par exemple, Paris et Lyon, ou encore Paris et Bordeaux. Les retraites, à présent, c'est le grand défi du gouvernement. Elles sont au cœur d'une réunion autour d'Elisabeth Borne et ses ministres à Matignon cet après-midi. La première ministre fixe en parallèle les contours de la future réforme dans les colonnes du Parisien de ce matin, Arthur Delaborde. Avec nous, bonjour Arthur.
Bonjour à tous.
Service politique d'Europe 1, bien sûr. On peut dire que Elisabeth Borne ne change pas de cap.
Oui, la philosophie générale, c'est toujours le report de l'âge légal à 65 ans d'ici 2031. C'est ce qui permet de ramener le système à l'équilibre, selon Elisabeth Borne. Toutefois, si les partenaires sociaux proposent un autre chemin, eh bien, il sera étudié, promet-elle, en excluant d'emblée la hausse des cotisations ou la baisse des pensions. Quoi qu'il en soit, la Première ministre maintient le calendrier fixé par Emmanuel Macron, c'est-à-dire une mise en application progressive de la réforme à partir de l'été prochain. Très concrètement, les premiers concernés seront les Français nés à partir du deuxième semestre de l'année 1961. Ils travailleront quelques mois de plus, dit Elisabeth Borne, sans donner de précision. Elle confirme par ailleurs que l'âge d'annulation de la décote restera fixé à 67 ans. Enfin, sur la pénibilité, la Première ministre ne ferme pas la porte à une amélioration des facteurs pris en compte, mais sans dévoiler ses pistes.
Merci beaucoup Arthur. Voilà Elisabeth Borne qui annonce également le montant de la retraite minimale quand elle entrera en fonction, ça sera 85% du SMIC et donc 1 200 € pour une carrière complète et la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés, notamment dans l'industrie électrique et gazière et à la SNCF. Grand dîner de gala hier soir entre Emmanuel Macron et Joe Biden, au menu du homard, on en a beaucoup parlé, des fromages made in USA, du gâteau à l'orange, que restera-t-il au-delà du menu, de cette visite d'État. La photo, évidemment, les mots doux, les accolades. Vendredi thématique, tiens, sur Europe 1. France-USA, je t'aime, moi non plus, c'est le thème du jour. On part sur place, retrouver Jacques Seret. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. Vous avez fait partie des journalistes, triés sur le volet, hein, pour assister hier soir au toast des présidents à la Maison-Blanche. Jacques, une soirée en grande pompe. Hein.
Oui, l'administration Biden n'a pas lésiné sur les moyens. Cette soirée de gala s'est tenue sous une immense tente installée sur la pelouse de la Maison-Blanche. Des dizaines de tables ovales et autant de chandeliers disposés au milieu de roses rouges et blanches pour la réception des quelques 350 invités. Tous en smoking et robe de soirée.
Alors Jacques, derrière les sourires et les mondanités, quel bilan peut-on tirer de cette visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis ?
Eh bien écoutez, dans l'entourage du président, tout le monde se félicite de cette visite. Joe Biden se dit prêt à d'éventuels ajustements pour satisfaire les alliés mécontents. C'est une avancée majeure, juge un proche d'Emmanuel Macron. Sauf que voilà, le président américain a dans le même temps déclaré qu'il n'avait pas à s'excuser, qu'il assume ce plan anti-inflation. Joe Biden enjoint d'ailleurs les Européens à faire de même. Emmanuel Macron, qui était venu chercher des exemptions pour les industriels européens, repart aujourd'hui de Washington sans annonce concrète.
Jacques Serey, envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis, qui suivra Emmanuel Macron aujourd'hui en Louisiane, le président de la République qui veut y célébrer la francophonie qui traverse le temps dans cette ancienne colonie française. Il est midi 10, restez bien avec nous. Il nous manque des profs, il nous manque des candidats pour devenir prof. On va faire un point complet et tout vous dire avec Louise Salé dans un instant. Et puis on va parler également du Téléthon et du Mondial de foot. Bien sûr, à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
C'était les dernières heures pour les étudiants qui voulaient s'inscrire au concours d'enseignants du premier et du second degré. La deadline, comme on dit, devait initialement tomber le 18 novembre, mais elle a été repoussée de 2 semaines en raison d'un nombre trop faible de candidats. Près de 46% en moins par rapport à l'année dernière. Une mesure exceptionnelle qui annonce peut-être une pénurie importante de profs, de professeurs à la rentrée prochaine. Écoutez ce reportage Europe 1 de Louise Salé devant l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation à Paris, là où sont formés les futurs enseignants de la capitale.
Comme dans une école, les étudiants se pressent pour passer la grille. Parmi eux, Judith, jeune maîtresse de CE2, est revenue à l'Institut suivre une formation et trouve les locaux déserts.
Il n'y a pas grand monde dans les amphis. Il y a des démissions, il y a des reconversions. C'est difficile et puis c'est vrai qu'on n'est pas assez valorisé.
C'est aussi ce que pense Annabella. Elle vient de s'inscrire en ligne au CAPES d'italien pour être prof dans le secondaire.
Le salaire, ça ne donne pas envie de faire 5 années d'études après le bac pour avoir un salaire qui correspond presque au SMIC.
Antoine enseigne en primaire, il a réussi le concours l'année dernière.
Il y avait 219 postes ouverts pour Paris. Aux épreuves orales, on était 180 et on a été 150 à être pris. Donc en soi, au fois le calcul, ça fait 79 postes qui n'ont pas été pourvus. En plus de ça, les conditions ont été modifiées. Maintenant, il faut être en M2, donc ça rajoute des difficultés pour accéder à ce concours-là.
Avant, les étudiants passaient leur concours à la fin du M1. Ils étaient donc fonctionnaires rémunérés à temps plein en M2. Pour eux, donc, le gouvernement doit forcément revoir sa copie sur ce point.
Louise Salé, voilà, M1 et M2, c'est-à-dire Master 1 et Master 2. Il manque donc des professeurs et il en manquera probablement à la rentrée prochaine. Quand Charles fait place à Anne, à partir de demain, l'aéroport parisien Charles de Gaulle sera renommé Anne de Gaulle, à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. La fille du général de Gaulle, Anne de Gaulle, était porteuse de trisomie 21 et ce changement de nom n'est pas que symbolique. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour à tous.
Spécialiste santé d'Europe 1. Demain, une bonne partie des panneaux et de la signalétique sera entièrement renommée.
Oui, et cela commence dès l'autoroute. À l'approche de l'aéroport, les panneaux routiers lumineux annonceront en lettres oranges « Bienvenue à l'aéroport Paris-Anne de Gaulle » pour que les voyageurs ou les chauffeurs de taxi comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'une erreur, les frontons des terminaux 2A et 2B arboreront les nouvelles lettres en bleu d'au moins 2 mètres de hauteur, visibles par tous les automobilistes. À l'intérieur, la surprise sera réservée aux passagers dans les terminaux 2E et 2F où tous les écrans d'information des vols afficheront « Bienvenue à Paris-Anne de Gaulle ». Même message sur la totalité des panneaux publicitaires de ces terminaux. Et ce, au départ comme à l'arrivée, de quoi surprendre les touristes fraîchement débarqués. Et puis dans les airs, le personnel de la compagnie Air France annoncera à l'atterrissage la nouvelle appellation temporaire. Un message de sensibilisation au handicap sera aussi communiqué aux passagers. L'opération Anne de Gaulle durera 8 jours.
Merci beaucoup Yasmina Katou. Voilà, il y a cette photo très célèbre qui existe de Charles de Gaulle sur une plage dans un transat avec la petite Anne.
De sa fille, absolument.
En 1933. Je vous invite à aller la voir sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Yasmina. Voilà, et puis j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez faire un don pour le Téléthon, c'est ce week-end, le Téléthon, un numéro à le retenir. On le connaît tous, mais on se le dit. 36, 37 pour faire un don. Le sport et la Coupe du Monde avec 4 matchs au programme aujourd'hui à l'affiche entre la Corée du Sud et le Portugal à 16h. Dans le même temps, le Ghana affrontera l'Uruguay et puis à 20h, le Cameroun, Brésil et Serbie-Suisse. Quel programme ! La France, elle, prépare son match face à la Pologne. Ça sera dimanche à 16h, évidemment. Et parmi les joueurs français, un jeune milieu de terrain de plus en plus indispensable à cette équipe de France. Ce joueur, c'est Aurélien Tchouaméni, le seul à avoir débuté les 3 matchs du premier tour. La capitaine de l'équipe de France féminine, Wendy Renard, apprécie elle aussi Aurélien Tchouaméni.
C'est un joueur qu'on est forcément obligé d'aimer quand on aime le foot, car il est simple, c'est un joueur intelligent. Il domine sur le plan aussi physique, il est juste techniquement. Et après, voilà, il a une excellente vision du jeu. Donc, c'est un joueur que j'aime beaucoup et son évolution de par son jeune âge est très lucide sur sa carrière. Un plan de carrière vraiment, vraiment linéaire, logique, j'ai envie de dire. Et puis, il mérite tout simplement parce qu'il fait les choses bien et il travaille. Si tout se passe bien et il est épargné par les blessures, c'est dans la continuité en tout cas et sera le boss de ce milieu de terrain pendant de nombreuses années en équipe de France.
Voilà, et l'actualité bleue aujourd'hui, ce sera une conférence de presse avec 2 joueurs et un entraînement ouvert aux médias à 16h, heure française. On sera avec Jacques Vendroux à 12h45. Soyez là si vous le pouvez. Pour votre week-end, tiens, on vous a sélectionné 2 podcasts Europe 1. Le podcast Les Géants, à propos de Jacques Vendroux, le capitaine de l'équipe de France de foot, Hugo Lloris, nous fait revivre avec émotion les grands moments de la Coupe du Monde 2018. Jacques Vendroux qui revient sur l'histoire du foot français grâce aux témoignages exceptionnels de 5 bleus de légende. Aujourd'hui, Hugo Lloris. Et puis dans Historiquement Vôtre, Stéphane Bern réunit 3 personnages qui ont redoré le blason, redonné son lustre au château de Versailles. Il nous raconte notamment Louis XV qui a imposé son style à l'occasion d'une grande exposition sur le roi et ses passions à découvrir actuellement à Versailles. Forcément, Les Géants et Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern sur le château de Versailles. Didier Hameau de Boursier.com, bonjour Didier.
Bonjour Robin.
La bourse à Paris, ça donne quoi aujourd'hui ?
En roue libre, la fin de semaine, oui, une petite baisse, hein, moins 0,1%. 6 740 points, l'indice CAC 40 reste proche de ses meilleurs niveaux depuis 7 mois, hein, il faut le rappeler. Rassuré par la récente baisse des prix à la production en zone euro, on est en repli de 2,9% en octobre et en novembre, le repli devrait être supérieur grâce à la baisse des cours du pétrole. Ça a pas mal baissé hein, sur le pétrole vers les 80 dollars récemment. À noter l'euro aussi qui poursuit sa remontée. L'euro est à 1,05 face au dollar, au plus haut depuis le mois de juillet. Ailleurs, c'est assez calme aussi. La bourse de Francfort gagne 0,1%. Madrid est stable et le CAC 40 recule de 0,1%. 6 740 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de Boursier.com. La météo à présent, Anissa Haddadi, avec une veille de week-end hivernale. Hein.
Oui, tous les ingrédients de l'hiver sont réunis là pour aujourd'hui et pour tout le week-end. C'est vrai qu'on a du vent, la bise, hein, ce vent de nord-est qui rafraîchit l'atmosphère sur toute la moitié nord du pays. On a des flocons sur le massif central dès 600 mètres d'altitude. On a un petit peu plus de nuages dans le sud, même si le ciel est dégagé sur les Pyrénées, l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur, les Alpes. Cette fois-ci, on aura des passages nuageux un peu plus importants que ces derniers jours. Et puis le retour du soleil sur le nord-ouest, hein, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Les éclaircies se feront un petit peu plus nombreuses aujourd'hui. Bon, côté température, vous l'avez compris, ça y est, c'est l'hiver. Cet après-midi, franchement, elles sont basses. Les températures, 3 à Saint-Étienne, on a seulement 5 degrés à Paris et à 3. 7 à Chambéry et au Havre, 9 degrés à Carcassonne et Brest, 14 à Nice, 16 pour Ajaccio. Les premiers flocons arrivent la nuit prochaine, Romain, mais ils ne tiendront pas au sol.
Eh bien, on va les attendre, ces flocons. C'est toujours une bonne nouvelle, les flocons en hiver. Un week-end, voilà, frisqué, on va dire, midi 20. Et tiens, un rendez-vous à retenir demain soir, entre 23h et 1h du matin. Yann Moix va consacrer sa libre antenne aux violences faites aux femmes, avec comme invité la féministe Raphaël Rémy-Leleu. Vous pourrez témoigner en appelant le standard d'Europe 1 au 39-21. Il sera ouvert à partir de 18h demain soir. C'est un rendez-vous Europe 1 demain soir. Midi 20, restez bien avec nous, on va parler des retraites. Vous êtes prêts à travailler plus, à travailler plus longtemps? On en parle avec vous au 39-21 et avec l'invité d'Europe Midi, Jean-Yves Duménil de la CPME. A tout de suite.